France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Vladimir Cosma, le grand compositeur de cinéma qui affirme que la musique de cinéma n'a rien de spécial. C'est pourquoi il aime en donner de grandes versions symphoniques. Nous évoquerons sa famille très artiste, ses débuts parisiens avec Jean Vienner et Michel Legrand, ses succès populaires comme Rabbi Jacob, La Boum, Le Grand Blond, La Gloire de mon père ou encore l'opéra Marius et Jeannette. Spécial Vladimir Cosma dans un instant, le temps de retrouver cette voix qui nous fait rêver de jours meilleurs.
Il y a le ciel, le soleil et la mer. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Allongés sur la plage, les cheveux dans les yeux et le nez dans le sable, on est bien tous les deux. C'est l'été, les vacances, oh mon Dieu, quelle chance. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Ma cabane est en planche et le lit n'est pas grand. Tous les jours ce dimanche, et nous dormons longtemps. À midi sur la plage, les amis de notre âge chantent tous le ciel, le soleil et la mer. Chantent tous le ciel, le soleil et la mer. Et le soir tous ensemble, quand nous allons danser, un air qui te ressemble vient toujours te chercher. Il parle de vacances et d'amour et de chance en chantant le ciel, le soleil et la mer. En chantant le soleil et la mer. Quelque part en septembre, nous nous retrouverons. Et le soir dans ta chambre, nous le rechanterons. Malgré le vent d'automne et les pluies monotones, nous aurons le ciel, le soleil et la mer. Nous aurons le ciel, le soleil et la mer. Nous aurons le ciel, le soleil.
Et les aînés parmi vous s'en rappellent au moins de ce succès de 1965, le ciel, le soleil et la mer. C'était la voix de François de Gueldre. Je dois vous dire que j'étais très heureux la semaine dernière que mon invité Gilles Dreux ait longuement parlé de François de Gueldre, qui était un de ses amis, parce que c'est un excellent chanteur qu'on a trop oublié aujourd'hui. Ici, en plus, avec les beaux arrangements de Jacques Dangean. François de Gueldre, né en 1932 et mort en 2014.
Étonnez-moi, Benoît. Benoît Dutertre, France Musique.
Quant à mon invité ce matin, je vous le disais, même si c'est un des plus célèbres parmi les compositeurs de musique de film, il considère que la musique de film, ça n'est pas un genre spécial, c'est de la musique tout court. Je pense qu'il nous l'expliquera dans un instant et qu'il illustrera cette démonstration de ses très célèbres thèmes devenus populaires et qu'il a aussi orchestré pour les donner en concert. C'est ce qu'il aime faire aujourd'hui. J'ai la joie d'accueillir Vladimir Cosma.
Thank you.
Bonjour Vladimir Cosma.
Bonjour Benoît Duterte.
Je dois dire, j'étais épaté en découvrant cette version symphonique en public du Grand Blanc avec une chaussure noire qui se transforme tout d'un coup en un grand oratorio de Bach ou d'un compositeur baroque. Ça vous est venu comment, ce développement extraordinaire d'un thème que tout le monde connaît ?
Écoutez, ça m'est venu difficilement parce que la pièce était courte.
Oui.
Elle durait 2 minutes, 1 minute 50.
Avec la fameuse flûte de Pan.
Voilà. Et il fallait faire une pièce de 5 minutes et c'est pas facile. Et j'ai trouvé l'idée de faire la fugue comme développement en pensant à la fugue de Bach, de sa sonate en, pour violon seul.
Oui.
Je me disais, mais voilà, il y a une similitude, il y a quelque chose dans le rythme du motif de Bach qui peut s'adapter à ma fugue. Et voilà, puis j'ai pris le parti pris de faire une fugue qui soit pas emmerdante.
Ah non, non, bien. Ouais. Avec une progression aussi, on peut dire, dans l'orchestration, hein, l'entrée des cuivres, l'entrée des chœurs, etc. Enfin, il y a toute aussi une scénographie merveilleuse.
Oui, la fugue est synonyme d'emmerdement dans la musique. Vous voyez, on parle des gens qui font des fugues. Au secours. Bon, et je voulais faire une fugue qui plaisent aux gens, qui les fassent vivre et éventuellement sourire.
Alors, en plus, effectivement, le public, là, il est vraiment très enthousiaste. On l'entend qu'il tape des mains au début, tellement il connaît le thème, puis après, il se laisse porter par la musique. Ça fait partie d'un disque paru il n'y a pas très longtemps, hein, Vladimir Cosma en concert, un double CD où, justement, voilà, vous présentez au grand public quelques-unes de vos compositions revisitées avec l'Orchestre National de Roumanie, votre pays d'origine.
C'est une tournée que j'ai fait à travers l'Europe
avec
l'Orchestre National de Roumanie. Pour cause, j'ai pas pris l'orchestre tchèque ou l'orchestre polonais pour des questions d'argent. J'ai pris l'orchestre roumain parce que malgré le fait que soit français, que ma musique est plus française que roumaine, enfin c'est un mélange.
Oui, vous êtes un amoureux de Ravel et de la grande musique moderne française, on peut dire.
Voilà, c'est ça qui m'a attiré. Mais il y a du roumain dedans, il y a une petite touche dedans, donc j'étais tenté de jouer avec l'orchestre roumain que j'avais rencontré à Bucarest, où j'ai eu un concert avec le même orchestre, et je les ai prises, et on a fait l'Europe avec, et on a enregistré à Paris, à Lyon, à Lille, à Genève, et en fait ce disque, ce double album, c'est une compilation des meilleurs moments.
Voilà, de la tournée. Aussi vos solistes quand même, hein, justement à la flûte de Pan qu'on vient d'entendre.
Solistes extraordinaires, quoi. Extraordinaires des gitans, des non-gitans, tout ce que vous voulez. Il y a ce flûtiste de Pan, il y a un cymbalum extraordinaire.
En tout cas, la façon dont on peut, au fond, et ça a été, je dirais presque une des missions que vous vous êtes donné depuis longtemps, de faire vivre la musique du cinéma au-delà du cinéma. Vous n'êtes pas le premier, mais ça a été vraiment quelque chose de très important pour vous que de développer toutes ces versions pour le concert.
Le premier, mais j'ai poussé ça un peu à l'absurde parce qu'en fait, je m'intéressais pas tellement des images ou du cinéma. Et je pensais qu'une bonne musique peut s'adapter à n'importe quelle image. C'est-à-dire que la musique est comme un caméléon que vous mettez sur une bonne image, elle prend la couleur du film et que le film s'imprègne de ça. La musique est un art abstrait, totalement abstrait. Ça raconte pas des phrases, des idées comme nous parlons. Là, on parle des choses bien distinctes, on sait de quoi on parle. Dans la musique, on sait pas de quoi on parle. Sur une fugue de Bach, on peut montrer une scène belle femme qui court dans un champ, où on peut montrer un criminel qui tue je sais pas
exactement.
Qui. Et la même musique est là. Il faut que la musique soit bonne. Si elle n'a pas sa propre vie, c'est plus difficile. On peut pas faire la même chose.
Alors en tout cas, Vladimir Cosma, vous m'aviez fait déjà le plaisir de venir il y a un peu plus de 10 ans dans cette émission. On avait évoqué évidemment votre extraordinaire vie de compositeur, notamment de musique pour le cinéma et pas seulement. Mais voilà, aujourd'hui je me suis dit, tiens, allons aussi à la découverte de quelques autres aspects de Vladimir Cosma. Et par exemple, parlons quand même un peu pour commencer de l'extraordinaire famille d'artistes qui a été la vôtre.
Thank you.
l'orchestre de musique légère de l'ORTF sous la direction de Paul Bonneau à la fin des années 50 dans cette petite sérénade pour orchestre de monsieur Edgar Cosma, Vladimir Cosma.
Écoutez, vous m'avez fait un plaisir énorme de trouver cette pièce, puisque ça me rappelle toute mon enfance où mon oncle... Et
c'est votre oncle, hein, donc Edgar Cosma. Hein.
C'est le frère de mon père, le petit frère.
Oui.
Et c'était une idole pour moi. Je me rappelle, j'allais dans sa petite chambre, Strada Fetizelor. Il habitait cette rue-là à Bucarest. Où il avait une petite chambre où il s'enfermait, il composait, et moi je le regardais émerveillé, puisque c'était un modèle de musicien, grand musicien. Il a fait carrière comme chef d'orchestre, laissant la composition un peu au deuxième rang, mais c'était un grand compositeur qui avait tous des moyens énormes, quoi.
Mais alors ce qui est frappant, parce que là c'est donc un enregistrement de l'ORTF dans les années 50, donc c'est ce côté très franco-roumain de votre famille, déjà depuis longtemps, si on peut dire.
Oui, mais vous savez, mon père a fait ses études au lycée Janson de Sailly, à Paris, dans son enfance, et il est venu à Paris avec ma mère, avec laquelle il était déjà marié, en rêvant vivre ici à Paris. Et moi, j'étais procréé à Paris.
Ah voilà, mais, au moins c'est précis.
Mais je ne suis pas né ici. Ouais. Ils ont fait l'acte principal, mais pas l'accomplissement, puisque mon père a dû revenir en Roumanie à cause de la mort de son propre père. Il est venu à l'enterrement en 1939. Ensuite, la guerre a éclaté, les frontières ont été fermées, les communistes sont arrivés et mon père est resté.
Il est resté là-bas.
Mon père, avec mon oncle et tout ça, toute ma famille est restée là-bas. Ils ont fait une grande carrière en Roumanie, dans la musique, évidemment.
Mais ils illustraient, au fond, cette francophilie et cette francophonie aussi de la Roumanie de l'époque.
Absolument, absolument, qui existe moins maintenant. Oui. Elle est dans le cœur des Roumains, dont le mien. Mais je suis très triste quand je vais en Roumanie et je vois que je dois parler souvent où mes contrats sont signés en anglais ça. Et si l'Alliance française n'a pas fait son chemin comme elle aurait dû le faire, quoi.
Et votre père lui-même a été un grand professeur de musique, hein. Je crois que Marius Constant et d'autres ont été ses élèves.
Mon père était un grand musicien et surtout il a amené le jazz en Roumanie, jazz qu'il avait appris de Jean Wiener. Il a été l'élève de Jean Wiener, le seul élève que Wiener avait au piano, c'était mon père. Et donc, il a amené le jazz en Roumanie à l'occasion de son retour. Et tous les Roumains, tous les compositeurs, les musiciens qui étaient intéressés dans la musique nouvelle venaient chez lui pour apprendre le jazz, dont Marius Constant, Sergiu Celibida, qui est le grand chef d'orchestre. Il a appris le piano jazz avec mon père jusqu'à un moment donné où mon père lui a dit « Écoute, il faut que tu fasses un autre métier parce que tu n'as pas de swing. »
Il s'y jouait tout à demi-tempo comme lorsqu'il dirige.
Je sais pas, mais il n'avait pas le don du jazz. Il avait d'autres dons extraordinaires. Je l'ai connu très très bien et là je travaille avec son fils, le fils de Sergiu Celibida, qui est metteur en scène, qui vient de faire un film dont j'ai fait la musique et un peu sur la vie de son père. Le film s'appelle Octave.
Alors évidemment, dans une famille de musiciens, en général, on devient soi-même musicien et ça n'a pas manqué. Vous avez été un jeune musicien très très brillant et prometteur, à la fois comme violoniste, mais aussi bien vite orchestrateur, compositeur. Et vous êtes venu vous-même à Paris. Et alors c'est pour ça que vous êtes allé voir Jean Wiener, parce que ça avait été le professeur de votre père.
C'est la première personne qu'on a vue. Je suis allé avec mon père voir Jean Wiener, qui voulait que je lui joue quelque chose au piano.
Oui.
Moi, je suis pas pianiste, mais bon, je peux jouer quelques accords. Et Wiener m'a dit, mais mettez la main sur le piano, jouez-moi quelques accords, ce que vous voulez. Bon, j'ai fait ça. Et il a dit à mon père, votre fils, c'est la musique même.
Oui, c'était pas mal.
Ça, c'est les mots de Jean Wiener.
Et il a été comme une espèce de parrain attentif dans vos premières années.
Il a été extraordinaire parce qu'on a eu beaucoup de mal au début. Vous voyez, quand vous arrivez dans un pays, on vivait dans un hôtel de réfugiés avec des aides, avec des choses comme ça. Moi, je tirais le diable par la queue. Mon père avait fait un infarctus. Toute la famille était en déliquescence. Il n'y avait que moi qui travaillais pour tous. Et donc Wiener, je le voyais une fois par semaine. Il m'amenait à la brasserie, à l'Alma, où il m'offrait un menu qui me semblait quelque chose de royal. C'était un menu à 10 francs. Je me rappelle, ça coûtait 10 francs, ça me semblait une fortune. Et enfin, je mangeais avec Wiener qui me racontait Debussy, elle me racontait Eric Satie, me racontait toute cette Paris qu'il a connue si bien. Vous savez que Wiener avait deux maisons. Il avait la maison rue de la Trémaille où il était marié avec sa femme. Il avait des enfants et puis il avait une maîtresse qui était rue Pigalle, avec laquelle il a fait Elisabeth Wiener, qui était sa fille.
L'actrice.
Voilà. Alors, il avait deux pianos, un rue Pigalle, un de l'autre côté. Alors, quand il était rue Pigalle, il me prêtait l'appartement et le piano rue de la Trémaille, et quand il venait au déjeuner à la rue Trémaille, je partais immédiatement rue Pigalle pour continuer de travailler là. Donc, j'ai travaillé mes premières années. Même au moment où j'ai travaillé pour Michel Legrand, quand j'ai commencé, je suis devenu l'assistant de Legrand. Bon, je travaillais sur le piano de Wiener. Il me donnait, chaque fois qu'il me voyait, il me donnait 100 francs.
Extraordinaire.
Comme ça. C'était à fond perdu, si je peux dire ça. Il me faisait ça. C'était un homme d'une générosité, d'une bonté, un communiste, mais à l'ancienne, quoi. C'est parce qu'il a été communiste jusqu'au bout de sa vie.
C'est vrai. Membre du parti.
Oui, membre du parti. Mais bon, le bon côté du communisme. Et je l'ai connu comme ça.
Alors, vous avez prononcé un autre nom, quelqu'un qui a joué aussi un rôle important dans votre vie, à vos débuts de votre vie parisienne. Et on va le retrouver maintenant dans une musique à laquelle vous êtes d'ailleurs également associé.
Attaché à la vie par un chant d'oiseau, fragile comme un refrain, éphémère et courbé comme sont les roseaux. Ô vous, mes bohémiens, détachés de la terre, marchant sur les eaux, vous êtes ni plus ni moins de la race que j'aime, fait de sang et d'eau. Alors, vous régnez sur mon cœur depuis que je connais par cœur vos rires qui sont mêlés de pleurs, vos larmes. L'amour par un simple mot, un mot, un mot ancien, suspendu aux chimères, parlant de duo. Vous êtes ces magiciens qui offrez votre vie pour monter là-haut, là où il n'y a rien. Solitaire, désolé, ami des pianos, errant sur des ombres de ciel, rêvant d'un air confidentiel. Mes frères, vous êtes l'essentiel d'un monde artificiel. Dormez, mes musiciens, je vous veille et je serai sans défaillance. Dormez, dormez les miens, je vous aime, je vous vois et j'écouterai vos silences.
C'était en 1969, les débuts de Michel Legrand comme chanteur, hein, dans ce disque et dans cette belle chanson, Les Musiciens. Superbe arrangement signé Vladimir Cosma.
Merci de me, citer. Mais...
Les cordes, le clavier, tout est très joliment dosé.
Ce qui est beau, c'est surtout Michel Legrand et la musique et sa voix et tout ça. Enfin, écoutez, pour moi, Michel Legrand, c'était quelque chose de crucial dans ma vie, puisque quand je suis arrivé en France, je voulais rencontrer plusieurs musiciens, 3 ou 4 musiciens, Jean Vienner, bien sûr, Nadia Boulanger, Michel Legrand, Martial Solal.
Mais c'est vrai d'ailleurs que vous avez cité Nadia Boulanger, qui avait été la professeure de Michel Legrand. Vous avez aussi pris quelques leçons avec elle.
Ah ben j'ai pris plus que quelques leçons. Je suis venu avec une lettre de recommandation de mon professeur de compositeur de Roumanie, qui la connaissait, et elle m'a pris comme élève. D'abord, elle m'a fait venir à Fontainebleau, dans l'école franco-américaine. Puis au bout de 2 fois, j'ai renoncé à ça. Je suis allé lui dire, mademoiselle, je suis venu chez vous pour apprendre le contrepoint à l'ancienne, etc. Pas pour être dans des séances un peu mondaines. Elle faisait de l'analyse musicale avec des Américains, des Anglais. Bon, c'était pas, ça m'intéressait pas particulièrement. Il me dit, mais des leçons de contrepoint, vous voulez des leçons particulières? Alors, j'ai dit, ben oui, je voudrais ça. Il me dit, bon, vous êtes un peu impertinent, mais vous viendrez chez moi, rue Balue, vendredi. Mais sachez que si une fois vous venez sans vos leçons faites ou faites à la va-vite, c'est fini.
C'est fini.
Bon, elle était en apparence très dure, mais pour moi, elle a été très, très importante. Vous savez qu'à l'époque, pour exister en tant que musicien, il fallait faire de la musique dite contemporaine. Donc il y avait Boulez et toute la clique qui était roi. Nadia Boulanger était complètement une has-been. C'était, personne ne s'intéressait à Nadia Boulanger que les Américains et un groupe de compositeurs français qu'il aimait bien, comme Jean Francex.
Qui avait été son élève
Ou Poulenc ou autre chose. Mais on ne voyait pas ni l'ombre de Boulez, ni de Gilbert Ami, ni tous ces gens-là qui avaient le pouvoir décisionnaire en France à l'époque. Il y avait des concours internationaux très importants et je voulais participer pour gagner de l'argent. C'était une source de revenus. Et pour faire ces concours, il fallait faire de la musique très moderne. Donc j'écrivais des choses de décaphonique ou des choses post-décaphonique. Mademoiselle Boulanger me voyait faire ça. Elle me dit, mais qu'est-ce que vous faites là? J'ai dit, écoutez, mademoiselle, je suis obligé de faire puisque j'ai besoin de gagner ma vie et je ne peux pas gagner ma vie en faisant une musique tonale. Bon, elle n'était pas très contente, mais elle me dit, écoutez, si vous voulez, faites-le, mais n'oubliez jamais qui vous êtes, d'où vous venez et les musiques que vous m'avez jouées à votre début, quand vous êtes venu me voir, parce que je lui avais joué des compositions. Il me dit, c'est ça votre force. Donc ça a été quelque chose de très important pour moi, même plus important que les cours de contrepoint qu'elle m'a donné.
Ce qui vous a amené plus tard à utiliser justement des couleurs, notamment venues d'Europe centrale ou autre dans vos musiques.
Et même thématiquement, tout ça, la musique de film et tout ce que j'ai fait, dont le public connaît de moi, en fait, c'est la suite de ce que je faisais quand j'étais petit.
Et Michel Legrand, donc, la rencontre s'est faite comment?
La rencontre s'est faite que je voulais, et mon père voulait, avoir son avis sur moi. Qu'est-ce qu'il pensait, s'il pensait que je pouvais faire ma vie ici en France, etc. Donc, on essayait d'avoir un rendez-vous avec lui, c'était impossible, il était occupé. Et puis, tout d'un coup, on voit un concert, grand concert, à la salle Gaveau, dirigé par Michel Legrand. Bon, je vais avec mon père à ce concert. On voit Legrand. Après le concert, on arrive dans les coulisses. On fait connaissance et tout ça. Et il lui parle. Il me dit, voilà, mon fils, j'aimerais bien que vous le rencontrez, etc. Et puis Legrand donne un rendez-vous un mois plus tard chez lui. Il habitait avenue Victor Hugo dans le 16e. Je suis allé. Il m'a invité à déjeuner. J'ai mangé une langouste. Je me rappelle très bien. Je me suis cassé une dent avec cette langouste. J'en ai bavé toute ma vie de cette
langouste,
de cette dent. Donc j'ai rencontré Legrand. Je lui ai montré mes pièces et il l'a trouvé formidable et que oui, il pourrait éventuellement travailler avec moi, mais pas pour l'instant, puisqu'il a déjà quelqu'un qui l'aide, qui était Jean-Michel Defaille. Mais quelques mois plus tard, il m'a demandé de lui faire des arrangements pour une grande émission qu'il faisait à l'Alhambra, le grand théâtre qui n'existe plus aujourd'hui, où il y avait tous les mois Musicorama, un grand spectacle où tous les grands artistes français de variété venaient et y jouaient, accompagnés par le grand orchestre de Michel Legrand. Il y avait Beko, il y avait Aznavour, il y avait Béart, il y avait tous les grands artistes qui étaient là. Donc il devait refaire les arrangements pour tout le monde. Et à ce moment-là, il m'a donné des arrangements à faire et voilà. J'ai commencé une collaboration qui a duré pendant des années.
Voilà, et c'est comme ça donc que le jeune Vladimir Kosma, finalement, on ne le sait pas toujours, bien avant d'être un grand compositeur de musique de film, a été un arrangeur actif dans le milieu de la chanson française. Voilà. Il en reste quelques disques d'ailleurs, par exemple il y a un disque avec Jacqueline François, des chansons de Paris, très très jolies. Elle était sympathique Jacqueline François?
Très sympathique, très parisienne comme genre de fille. Bon, c'est Jacques Canetti qui m'a amené chez elle.
Plus connu d'ailleurs aux États-Unis qu'en France, peut-être, oui, Jacqueline François. Et puis Jeanne Moreau, dans ce très beau disque, Les chansons de Clarisse, en 1968. On écoute tout de suite la première chanson du disque, puis on va en redire quelques mots tout de suite après. Voilà Jeanne Moreau en 1968, très jolie chanson avec alors là une couleur complètement sud-américaine, choisie par vous, Vladimir Kosma, avec le compositeur de la chanson.
Le compositeur, lui, qui était un ami, qui était quelqu'un de très très bien, Philippe Gérard.
Voilà, grand musicien.
Grand musicien avec lequel j'ai beaucoup travaillé à mes débuts. J'ai un souvenir de ces séances parce qu'on était à 9h du matin avec tout l'orchestre. Au studio Polydor, rue des Dames, on attendait la grande Jeanne Moreau parce que elle a tout enregistré en direct.
L'orchestre. C'est pas du re-re avec un casque.
C'est en direct. Et donc, on l'attendait, on était là, 60 musiciens, 80 musiciens, à l'attendre. Elle ne venait pas, elle était en Tchécoslovaquie. Et le matin passe, mais il y avait les budgets, vous voyez, on payait les musiciens qui attendaient, qui papotaient, qui, tout ça.
Les cordes de l'opéra, les meilleurs musiciens de Paris.
Tout le monde était là, elle était une énorme vedette. Et puis, enfin, vers 4 heures de l'après-midi, tout d'un coup, il y a une espèce de silence énorme. Il y a des sbires qui arrivent. Mademoiselle Jeanne Moreau arrive. Il y a le taxi et puis elle est arrivée. C'était la grande star, ouais, qui arrivait. Et voilà, on a commencé à travailler des journées et des journées parce que c'était un grand disque. Et elle, c'était pas une chanteuse, c'était pas Nana Mouskouri. Ouais, c'est pas quelqu'un qui... Mais beaucoup de talent et tout ça en direct. Elle ne voulait pas faire un recording.
Alors, vous étiez donc voilà lancé, on peut dire, dans le métier. Vous vous imaginiez à ce moment-là que vous auriez pu rester longtemps arrangeur, orchestrateur pour les séances de studio, les artistes de la chanson, ou vous aviez déjà autre chose en vue? Comment est-ce que le cinéma est arrivé finalement?
J'ai jamais eu de plan de carrière. Ouais. Oui, j'étais tellement content d'être à Paris, d'être apprécié par Michel Legrand et par le monde de la musique de Paris. Mon rêve, c'était de m'inscrire dans la lignée des grands, des arrangeurs qui travaillent à Paris. Je ne pensais pas, le cinéma, je savais pas, même pas ce que c'est. Je connaissais pas l'existence du genre musique de film.
Ah oui, c'est ça, oui.
Les musiques que vous écoutez de moi, vous écoutez Le Grand Blond, ça fait musique de film, ça fait pas musique de film, à mon avis, c'est de la musique.
Georges Delerue, Maurice Jarre, c'est des musiciens de cinéma, non?
Oui, mais moi, je suis pas du tout de la même lignée. Ouais, c'est, je suis dans une autre lignée. Je travaille pour le cinéma, mais je fais pas de la musique de film de cinéma.
Alors, c'est notamment quand même la, on peut dire la rencontre d'Yves Robert qui a un peu changé les choses.
Non, c'est toujours la rencontre avec Michel Legrand qui s'est transformé après en rencontre avec Yves Robert, puisque Michel Legrand travaillait avec Yves Robert et les films précédents d'Yves Robert, la musique était signée par Michel Legrand, mais beaucoup de ces musiques étaient écrites par moi, puisque Legrand était en Amérique et tout ça, donc c'est moi qui avais la responsabilité. Yves Robert m'avait vu, il parlait pas beaucoup, moi je faisais pas beaucoup de bruit, ouais, mais je dirigeais l'orchestre et j'enregistrais les musiques, notamment un film avec Robert Hirsch, Monnaie de singe, etc. Bon, donc un jour j'étais avec la perspective de partir avec Legrand en Amérique, parce qu'il partait 3 jours plus tard, on partait tous les deux à Los Angeles, et j'étais chez lui, rue Chardon-Lagache, où il avait une petite maison, pour discuter les derniers détails pratiques de ce départ, c'est-à-dire où je vais habiter, comment on va faire, etc. Et pendant que je dis, le téléphone sonne et Yves Robert au téléphone qui lui propose la musique d'Alexandre Le Bienheureux. Bon, il répond qu'il ne peut pas le faire parce qu'il part en Amérique, etc. Robert lui dit, bon, mais il y avait un jeune qui travaillait avec toi, qui était là, bon, ben, lui, il ne pourrait pas le faire. Il dit non, il ne pourrait pas le faire parce qu'il vient avec moi. On part ensemble, il part avec moi en Amérique. Ah bon, ben, et il raccroche. Moi, en entendant ça, j'étais complètement bouleversé. Vous voyez, c'est, je me disais, moi, là, qu'est-ce que j'aimerais faire, enfin, une musique à mon nom.
Oui, et pas seulement comme assistant.
Et je lui dis, mais Michel, est-ce que je ne pourrais pas faire la musique de ce film-là et venir après vous rejoindre en Amérique par la suite? Ben non, mais on doit travailler tout de suite, il y a tel film à faire et il faut le faire. J'ai dit oui, mais enfin vous allez là-bas, vous allez passer 2 mois à vous installer, à voir le film, les minutages, etc. Moi, tant je peux faire ce film-là et après je viens. J'ai tellement insisté qu'à un moment donné, je l'ai vu un peu fatigué. Et il prend le téléphone,
il rappelle
Yves Robert, il dit, bon, chéri, voilà, j'ai un grand cadeau pour toi. Tu as un crayon, marque Vladimir Cosma, 15 rue Jean-Jacques Rousseau. Bon, et c'était le plus grand cadeau de ma vie.
Et alors là, évidemment, on le sait, les succès se sont enchaînés.
J'ai connu le cinéma, j'avais commencé à travailler pour le cinéma, pour Michel Legrand, avant, puisque j'avais participé au Parapluie de Cherbourg
et les Demoiselles de Rochefort,
j'avais fait des arrangements et j'avais dirigé l'orchestre. Bon, donc j'étais au courant, mais pour moi, c'était de la musique, quoi. Ouais. Des arrangements à faire pour des musiques de jazz ou de musique de variété, mais c'était pas de la musique de film. Je savais pas ce que c'est, ça. Et donc, quand j'ai vu ça, bon, il y avait des petits cinémas dans le quartier latin qui diffusaient du matin au soir des films. On pouvait voir 4 ou 5 films par jour. Et pendant 2 semaines, du matin au soir, je voyais des films pour voir un peu ce que c'est la musique de film et comment on l'a fait. J'ai vu que c'était rien du tout par rapport à la grande musique et à la musique tout court avec un grand thème.
Et là, les succès, on le sait, sont enchaînés. Quand on préparait l'émission, je vous ai demandé, tiens, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait spécialement rire, par exemple, au cinéma? Vous m'avez cité le passage de Rabbi Jacob, vous savez, Salomon, vous êtes juif.
De Funès, c'est mon acteur favori depuis que j'étais en Roumanie. Quand j'avais 13 ans, j'allais voir les films de Funès, parfois 20 fois, pour voir une apparition de Funès de 20 secondes. Tout ça, j'étais fan de ça. Et puis quand vous m'avez demandé ça, je me disais, qu'est-ce que je peux donner? Évidemment, j'aime Coluche, mais je ne savais pas quoi vous dire de passer, alors que là, ça c'est court et c'est formidable.
Vous avez vu, Salomon, ils ont des voitures maintenant. Ils ont des Rolls blanches, les noirs.
En tout cas, c'est pas monsieur que ça risquerait d'arriver.
Quoi donc?
Que mademoiselle épouse un noir.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Que monsieur est peut-être un peu raciste.
Raciste? Moi, raciste? Salomon, raciste? Enfin, Dieu merci, Antoinette épouse un Français bien blanc. Bien blanc. Il est même un peu palo, vous trouvez pas? Avec ce petit bouton.
Et son cheveu sur la langue?
Il a un cheveu, mais il est riche. Riche comme moi, et catholique comme tout le monde.
Pas comme tout le monde, monsieur. Parce que moi, par exemple, je suis juif.
Vous êtes juif? Comment, Salomon, vous êtes juif? Salomon est juif. Oh!
Et mon oncle Jacob, qui arrive de New York, il est rabbin.
Mais il n'est pas juif.
Ben si.
Mais pas de votre famille.
Si.
Tout ça fait rien, je vous garde quand même.
Voilà la musique, évidemment, de Rabbi Jacob par mon invité Vladimir Kosma. D'ailleurs, si je comprends bien ce que vous me dites, Vladimir Kosma, vous pourriez presque écrire une musique de film sans voir le film.
Absolument.
Vraiment,
absolument. Sérieux? D'ailleurs, vous savez, depuis que je suis petit, j'ai des grands cahiers de musique où je marque, j'écris tous les matins, je compose. Sans film, sans rien, avec film, peu importe. J'écris des thèmes, j'écris des idées que je marque dans ces cahiers. Et quand j'ai une commande, qu'elle soit de film, qu'elle soit d'opéra, qu'elle soit d'autres choses, je cherche des idées. Mais les idées nouvelles que je trouve me semblent toujours inférieures à ce que j'ai trouvé avant. Parce que je suis pas encore habitué, elles sont pas assez travaillées, tout ça. Donc je les marque dans mes cahiers. Et à cette même occasion, je cherche un thème passé qui pourrait coller à la commande qui m'est faite à ce moment-là. Et je trouve quelque chose parce que j'ai des milliers de thèmes dans ces cahiers. J'en ai, c'est un trésor pour moi. Et j'en ai même maintenant. Donc souvent, des musiques de films qu'on croit avoir été faites pour le film en question, par exemple, thème de Rabbi Jacob, ce thème-là que on a entendu là-bas, il n'est pas fait pour le film. Je l'ai fait pour autre chose. Quand j'étais petit en Roumanie, il y avait un orchestre qui s'appelait Reconif.
Oui.
Bon, j'avais écrit un thème pour eux où il y avait pam 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 pam, pam les chœurs et les cuivres qui jouaient ça.
Ah oui, c'est ça.
Donc bon, mais ça, vous êtes la première personne qui le sait.
Vous disiez d'ailleurs aussi dans une interview, mais c'est la même chose que ce que vous nous expliquiez tout à l'heure. Oui, la chevauchée des Valkyries, on voit ça très très bien. Ça nous paraît tout naturel avec la guerre du Vietnam et les hélicoptères, mais on pourrait très bien mettre ça dans une scène tout à fait d'un autre genre et ça, ça serait très bien aussi.
Ben oui, bien sûr.
Alors donc, voilà, vous avez écrit de la musique qui a été utilisée au cinéma, même si quand même, on peut dire souvent, ça a été peut-être une de vos marques de fabrique. Pour la plupart des films, vous avez essayé quand même de trouver une couleur qui va rester associée au film. Je pensais par exemple d'emblée à la flûte de Pan du Grand Blond, mais il y a toujours comme ça quelque chose
Des couleurs, nous irons tous au paradis, il y a cinq saxes, dans un éléphant sa trompe, il y a la mer, les oiseaux, le piano et tout ça. Je cherche toujours une idée maîtresse d'orchestration ou d'une couleur.
Avec la signature du film, d'une certaine façon.
Voilà, la signature du film et qui accompagne le film d'un bout à l'autre.
Oui.
Un peu comme a fait Antoine Carras dans Le Troisième Homme.
Oui, c'est ça.
C'est pas de la musique de film. C'est un foxtrot qui est joué à la sitar autrichienne sur toutes les scènes. Si c'est une scène de poursuite, il joue pam-param-param-param. Si c'est un truc de suspense, c'est toujours ça. C'est ça la force d'une chose. La difficulté, c'est que quand vous répétez 25 000 fois le même thème avec la même couleur, et tout ça, ça risque d'être monotone, ça risque d'être ennuyeux. Donc la gageure, c'est de trouver quelque chose qui n'est pas monotone malgré le fait que c'est répétitif et que c'est la même couleur. C'est ça. Bon, quand je ne trouve pas, parce que je ne suis pas abonné à cette formule-là, j'ai fait beaucoup de films où je fais, comme tous mes confrères, une orchestration normale. Par exemple, le Rabbi Jacob, c'est construit comme une musique de film où il n'y a pas une seule couleur. C'est divers comme orchestration. J'ai pas tout misé sur cette idée-là.
Alors, on va écouter là une grande pièce symphonique, Vladimir Kosma. Alors, vous allez nous dire d'ailleurs d'où elle vient. Est-ce qu'elle a été écrite pour le cinéma, pour le coup, celle-ci? C'est le concerto de Berlin, extrait du film La Septième Cible, ici créé par Ivry Gitlis dans le film, hein, mais qui a été repris par d'autres violonistes par la suite, comme Renaud Capuçon, je crois, et d'autres.
Renaud Capuçon, Vadim Repin.
C'est quoi ce concerto de Berlin, alors?
Ce concerto de Berlin, c'est exceptionnellement une musique écrite pour le film et qui est devenue un concerto de violon. Voilà. Moi, je ne trouve pas que c'est péjoratif d'écrire la musique pour le cinéma, puisque j'en fais tout le temps, je suis très content.
300 films, je crois, quelque chose comme ça.
Mais je prétends que je ne fais pas de la musique de film. Ouais. Je considère que ce concerto-là, que vous allez passer, est un concerto de violon qui n'est pas de la musique de film. C'est un concerto, ça s'écoute. D'ailleurs, souvent, les gens qui le voient ou ils l'entendent à la radio, ils téléphonent quand ils savent pas ce que c'est.
C'est vraiment le compositeur.
Qu'est-ce que c'est comme concerto? Qu'est-ce que ça? Comme La Boum. Bon, j'ai fait la chanson célébrissime de La Boum. Bon, y a beaucoup de gens qui disent d'accord, la musique du film La Boum est de Vladimir. Mais la chanson en réalité, qui a fait ça? C'est comme si c'est quelque chose d'à part, d'en dehors. Voilà, c'est dans ce sens-là.
Thank you.
Le concerto de Berlin de Vladimir Kosma, un vrai concerto donc qui existe, hein, Vladimir Kosma, en version vraiment concert qui fait une trentaine de minutes.
Voilà, exactement. Et qui a été créé par Vadim Repin il y a quelques années.
Voilà, et ça c'est la version donc du film, hein, la septième cible qui fait 7 minutes telle qu'elle est donnée dans le courant du film.
Voilà, et je la joue en concert dans une version moi-même intermédiaire, enfin intermédiaire, 9 minutes, j'ai rajouté 2 minutes, je me suis permis pour pouvoir quand même le jouer dans mes concerts de musique de film où je ne peux pas accaparer une demi-heure du concert pour jouer la version symphonique.
Là c'était Ivry Gitlis avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin, hein. Voilà. Excusez du peu quand même.
C'était la version originale enregistrée à Berlin au moment du tournage du film. D'ailleurs, quand Vadim Repin l'a enregistré, il l'a joué, il m'a dit, écoute, n'attends pas de moi de jouer comme Ivry Gitlis. Ouais. Personne ne peut jouer comme lui. Ben, j'ai dit, non, mais j'attends pas, joue-le comme tu le joues, toi, etc. Voilà.
Et vous-même, Vladimir Kosma, vous ressortez quelquefois votre violon? Parce que vous avez été violoniste.
Oui, j'étais violoniste, mais je ne le sors pas, j'ai honte, là, maintenant.
C'est vrai.
Bah, oui, parce que le violon, il faut travailler tout le temps, mais enfin... Je dis ça, mais c'est pas tout à fait vrai. Il y a 2-3 ans, j'ai sorti mon violon pour un film. Ouais. Parce qu'il fallait doubler un violoniste qui jouait dans le film. Et je l'ai joué parce que je peux encore jouer si je joue tout de suite. Je prends le violon et je commence sur les vieux réflexes. Et tout ça, j'arrive à jouer potablement. Surtout que je n'ai plus de cordes aux doigts. Il faut avoir des cordes pour pouvoir jouer sur les cordes, sinon ça fait mal, quoi.
Ouais.
Et donc, il faut que ça se passe dans les 10 minutes qui commencent. Si je peux jouer, ça va. Sinon, c'est fini.
Vous avez connu aussi une autre relative difficulté par rapport à ce qu'était justement votre façon de travailler et d'écrire de la musique qui existait pour elle-même et qui est passée par le cinéma, Vladimir Kosma, c'est qu'on faisait pas tellement de disques, hein, de musique de film quand vous êtes entré dans le métier, et ça a été parfois un peu difficile de les imposer alors qu'elles ont connu un très très grand succès en édition discographique.
C'est-à-dire que, vous savez, mes musiques, curieusement, connaissent de plus en plus de succès.
Oui.
Elles ont plus de succès aujourd'hui qu'elles avaient souvent au moment où je l'ai fait. Le Rabbi Jacob, c'est une vente régulière et très importante. Alors qu'au moment où je l'ai fait, bon, on a vendu 5000 disques, c'est tout.
Le Grand Blond, il s'est beaucoup vendu très vite, quand même.
Oui, le Grand Blond, oui, c'était exceptionnel. Ça a été une explosion de ma musique et du folklore et tout ça. Mais généralement, c'est maintenant que ça se passe. Et maintenant, vous voyez, les musiques sont reprises. Vous parlez du Grand Blond, il est reprise comme musique publicitaire pour McDonald's.
Ah,
vous voyez, donc on est 60 ans plus tard ou 50 ans plus tard, où la musique de la Boom, elle est sur Uber Eats comme support d'accompagnement. Ça crée une promotion énorme et une vente qui n'avait pas au moment où j'ai fait beaucoup, beaucoup de musiques sont comme ça.
Alors vous avez donné, voici quelques années, cet opéra Marius et Fanny, évidemment d'après Pagnol. Ça c'est un projet qui est arrivé comment, Vladimir Kosma?
On m'a appelé de Marseille, parce qu'on crée un musée du cinéma à Marseille, et on voulait faire une chambre, une pièce dédiée à Marcel Pagnol.
Oui.
Et on m'a demandé si j'étais d'accord de venir diriger mes musiques de films que j'ai fait sur les films de Pagnol, La gloire de mon père,
avec
Château
Yves Robert,
de ma mère.
Justement, d'ailleurs.
Oui, entre autres, mais il n'y avait pas que ça. J'avais fait des séries de télévision, la trilogie marseillaise, Marius, Fanny, ce n'était pas avec Yves Robert. Mais enfin, j'avais une grande production basée sur l'œuvre de Marcel Pagnol qui me convenait parfaitement et que j'appréciais beaucoup. Donc on m'a demandé de venir faire un concert avec ses musiques. Et tout d'un coup, je me suis dit, alors que je travaillais sur la trilogie marseillaise Marius, César, Fanny, ou Marius, Fanny, César, pendant que j'écrivais cette musique, l'idée m'est venue de faire un spectacle musical, parce que les personnages sont tellement extraordinaires. Là, il y a un lieu, il y a un pittoresque, il y a tous les ingrédients qui sont favorables à la création d'un opéra ou d'un spectacle lyrique. Et je me suis dit, au lieu de venir donner un concert, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose, un opéra, par exemple, lié, tout ça. Bon, et
vous n'aviez jamais écrit d'opéra ?
Non, j'ai jamais écrit, parce que j'avais pas de sujet qui m'intéressait particulièrement, mais là, le hasard est fait que je suis tombé sur Pagnol, et que j'ai connu d'ailleurs, Pagnol qui m'aimait beaucoup, parce qu'il aimait la musique de Michel Strogoff. C'était une série de télévision que j'avais faite, et il m'a écrit pour me demander le disque, et il voulait avoir ça. Ça, c'est une parenthèse. Mais j'avais donc des liens avec lui, et j'ai demandé à la mairie de Marseille, qui m'avait contacté, Roger Luccioni, c'était un des responsables, et je lui ai dit, écoutez, Roger, est-ce que ça serait pas possible de transformer ce concert que je donnerai avec plaisir, et si c'est utile et nécessaire, je le ferai, il n'y a aucun problème. Mais j'ai pensé de faire un opéra sur du Pagnol, sur Marius et Fanny, une sorte de Roméo et Juliette marseillais. Et il me dit, est-ce que l'opéra et la ville de Marseille pourraient me faire une commande pour faire ceci ? Il m'a appelé pour me dire qu'il a parlé avec Madame Offan, qui était directrice.
René Offan,
qui était directrice de l'opéra, qui n'était pas très enchantée parce qu'il dit Gaudin aurait dit oh ben ça va être une pagnolade encore. Et elle a dit oui, mais c'est un opéra sérieux. Chez nous, c'est pas Cosma, c'est pas. Bon, ben, elle a accepté de me rencontrer. Elle a dit bon, ben, je veux le rencontrer, voir qu'est-ce qu'il veut faire, comment il voit ça. Donc j'ai rencontré René Offan. Je lui ai parlé de mon projet. Elle a été très intéressée. Elle m'a demandé de lui écrire un résumé sur 2-3 pages de ce que je voulais faire. Je lui ai fait ça. Elle m'a commandé cet opéra. Ouais. Donc, elle a été à la naissance de ça. Après, tout le reste, ça a été une aventure extraordinaire avec le casting, avec tout ça.
Voilà, l'opéra créé en 2007 avec évidemment Angela Gheorghiu et Roberto Alagna qu'on va retrouver tout de suite dans le grand duo où ils sont donc évidemment rassemblés, Marius et Fanny.
Chapeau de paille et les versets de joie dans l'entente bataille. n'aimer qu'une image.
C'est l'envers, ça s'épare.
Désormais solitaire.
Qu'on vous donne en mémoire.
Que l'amour nous éclaire.
Angela Georgiou et Roberto Alagna, donc bien sûr dans Marius et Fanny, l'opéra de Vladimir Kosma, d'après Marcel Pagnol, créé à l'Opéra de Marseille en 2007. Ça fait déjà presque 14 ans, Vladimir Kosma. Est-ce que ça vous a pas donné envie de poursuivre dans la voie du compositeur lyrique? Après tout, le cinéma, vous avez tout fait, vous aimez ça, vous pouvez continuer, mais vous avez peut-être envie de faire autre chose aujourd'hui, non?
Vous savez, je n'ai jamais envie de rien. c'est la vie et le hasard des choses qui me donne envie. Pour l'instant, non, j'ai fait une version jazz de cet opéra que j'ai donné il y a quelques mois, où il y a presque un an, je l'ai donné dans une autre forme. Vous voyez, je n'arrête pas de refaire et de revisiter mes choses. J'ai tellement écrit que je perfectionne tout le temps ce que j'ai déjà fait. Vous voyez, vous avez commencé votre émission avec Le Grand Blond,
avec cette fugue incroyable.
Pour moi, c'est une nouvelle pièce, mais on part de la même chose. Je veux dire, c'est une forme de recréation.
Et mais vous lancez comme ça, de façon abstraite, dans l'écriture d'une symphonie ou d'un nouveau concerto? Non, c'est pas des choses dont vous avez envie particulièrement?
Non, il faut que j'ai envie, mais parfois l'envie m'est donnée par la vie, par ce qui se passe,
par
les rencontres, par quelque chose qui se passe, mais j'ai pas un plan. Je me dis pas, je vais faire 9 symphonies. J'ai fait une chanson.
Vous avez fait des suites symphoniques de vos œuvres.
J'ai fait des chansons qui ont eu des énormes, énormes succès dans le monde entier. La Boum, L'amour en héritage et tant et tant d'autres. Mais c'est pas pour autant que je suis devenu un auteur de chansons.
Ouais, bien sûr.
Je ne fais pas de chansons. Mais demain, je ferai une chanson, peut-être. Mais j'ai fait un concerto de violon, j'ai pas forcément envie de faire un deuxième, je fais un concerto de trompette.
Je vois très bien et je constate en tout cas avec joie que vous avez donné tous ces prolongements symphoniques de vos thèmes les plus célèbres, de vos musiques de films que vous dirigez vous-même. Et ça, c'est quand même aussi l'autre aspect de votre vie qui, de fait, s'est beaucoup développé ces dernières années, c'est le chef d'orchestre.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, si j'ai un regret, une forme de regret... Ouais. C'est que, en me laissant aller aux demandes de la vie à droite et à gauche, j'ai pas pu écrire 9 symphonies ou 10 opéras. J'ai pas pu approfondir et faire des œuvres longues. J'ai fait souvent des pièces courtes pour les besoins du cinéma ou des employeurs que j'avais. Et j'ai envie de plus en plus d'écrire des choses qui ont une certaine importance sur le plan du développement. Ouais. Évidemment, la mélodie et la cellule mélodique et la couleur est essentielle de la musique et a une importance très 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 grande, mais j'ai envie de donner un peu plus d'ampleur à mes musiques.
Ce que vous faites avec beaucoup de ces thèmes, justement, on l'a entendu tout à l'heure. Mais la baguette aussi, la direction, c'est quelque chose, vous y prenez un vrai plaisir?
Bon, écoutez, je prends un grand plaisir puisque je rencontre le public et j'ai vécu toute ma vie d'un confinement, pas à cause de la maladie, mais confinement à cause de mon métier.
Voilà, au piano, chez vous, à la table.
Tout ça, et tout d'un coup, être invité, venir, être fêté, voir des gens qui aiment vraiment la musique, ouais, puisqu'ils sont là pour moi. Ils sont pas, ils viennent pas pour le film ou pour autre chose. Ils viennent pour écouter la musique. Et ça, c'est un plaisir extraordinaire. Et évidemment, j'en profite.
Ben oui, et on espère que vous continuerez à en profiter longtemps et à nous en faire profiter.
Je suis pas un chef d'orchestre qui va diriger des symphonies de Mozart ou de Haydn ou de Beethoven, ça m'intéresse pas. Mais mes musiques, oui, c'est formidable.
Voilà, et c'est donc ce qui va se produire d'ailleurs dans quelques mois, on l'espère, dans des circonstances meilleures que celles d'aujourd'hui, puisqu'il y a 3 concerts exceptionnels qui sont programmés au Grand Rex au mois d'octobre. Hein, donc on touche du bois, je pense que tout ira bien au mois d'octobre. Et là, on vous retrouvera...
C'est sûr, vous savez d'ailleurs, il y a déjà plus de 4000 places de vendues depuis le début du lancement du concert. Et elles sont pas rendues, les gens n'ont pas rendu les mains alors qu'ils avaient la possibilité de rendre les places, puisqu'il n'y a pas de concert, et il y a des mois qui passent, ils gardent les places, puisqu'il y a l'espoir. Donc moi j'ai l'espoir avec eux.
On y sera sûrement tous, et je l'espère. Et on va se quitter, Vladimir Kosma, avec une musique parmi tant d'autres, mais c'est vrai qu'elle est formidable, cette Habanera de la gloire de mon père. Dites-nous-en un mot.
Eh ben, écoutez, le mot, c'est que je dédie le passage que vous faites à mon propre père, qui n'est plus là, mais j'aimerais bien qu'il entende et qu'il l'apprécie. Voilà. Et voilà, c'est
à la gloire de Monsieur Kosma.
À la
Kosma.
Gloire de mon Monsieur Kosma, père Théodore dit Teddy.
Teddy, qu'on a évoqué tout à l'heure. Voilà, c'est de la musique du film La gloire de mon père en 1990, une grande habanera ravelienne, presque on pourrait dire.
Tout à fait.
Merci d'avoir été avec nous ce matin, Vladimir Kosma, et j'espère à bientôt pour la reprise de toutes ces activités.
Ah, quand vous voulez, Benoît.
Et c'était la très belle Habanera du film La gloire de mon père, dirigé par le compositeur Vladimir Kosma, qui était ce matin mon invité. Alors Vladimir Kosma, en principe, vous pourrez aller l'applaudir au Grand Rex à Paris les 15, 16 et 17 octobre prochains. Et puis vous pouvez également écouter justement ces belles versions concert dans le double CD Vladimir Kosma en concert paru chez Larghetto.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Mais tiens, puisque nous avons parlé de Marseille et de Pagnol avec Marius et Fanny, l'opéra de Vladimir Kosma, eh bien restons à Marseille avec son grand chanteur Alibert dans une opérette de Vincent Scotto, Au pays du soleil. Cette chanson m'y est enregistrée en 1932.
Miette, tu vendais des violettes quand je t'ai connue, souviens-toi. Modeste comme ces fleurs simplettes, ta grâce me mit en émoi. Et depuis cet instant, je chante en te voyant. Miette, Miette, toi si jolie, si jolie, j'aime tes yeux resplendis, l'éclat du soleil du midi. Ma jolie, toi ma raison et ma folie, mon cœur t'appartient pour toujours. Miette, mes amours.
Mademoiselle, quelle belle journée de printemps.
Moqueuse, va, je me le rappelle, tu m'as rionné gentiment.
J'ai ri car souviens-toi, il pleuvait à torrents.
Miette, Miette, toi si jolie, si jolie. J'aime tes yeux resplendis, l'éclat du soleil du midi. Ma nuit jolie, toi ma raison et ma folie, mon cœur t'appartient pour toujours, Miette, mes amours.
J'aime tes yeux où resplendit l'éclat du soleil du midi.
Oh, le ravissant petit cœur. Et puis j'aime surtout la voix au perché de Jenny Elia, qui est ici la partenaire d'Alibert. Alibert qui d'ailleurs avait l'accent marseillais dans les opérettes marseillaises, mais qu'il n'avait pas forcément lorsqu'il chantait des chansons parisiennes. Ici, il l'a naturellement, puisqu'il s'agit d'Au pays du soleil, l'opérette de Vincent Scotto, accompagnée en 1932 par Sellers et son jazz marseillais. Et puis nous allons terminer ce programme comme il se doit en compagnie de notre ami Fernandel. Aujourd'hui j'ai choisi un de ses plus grands succès, Ignace, extrait de l'opérette et du film du même nom. Une chanson qui a l'air toute simple mais dans laquelle il met en œuvre notamment son art de hacher les mots.
Lorsque je suis né, mes parents étonnés firent tout d'abord un drôle de nez. Quand vint le docteur, j'appris avec stupeur que j'aurais pu être ma sœur. Quand on s'aperçut que j'avais quelque chose en plus, ils me baptisèrent alors tout ému. Ignace, Ignace, c'est un petit petit nom charmant, Ignace, Ignace, qui me vient tout droit de mes parents. Ignace, Ignace, il est beau et me va comme un gant, moi je le trouve plein de grâce. Ignace, Ignace, je m'en crois pas, mais il me place. Ignace, c'est un nom charmant, je pourrais, attention, m'appeler sans prétention, machin chose ou bien Tartempion. On ne l'a pas voulu, mais je suis convaincu d'avoir un nom qui est rudement beau. Mais en vérité, je le dis sans me flatter, ça me fait une personnalité. Ignace, Ignace, c'est un petit petit nom charmant. Ignace, Ignace, qui me vient tout droit de mes parents. Ignace, Ignace, il est beau et me va comme un gant, moi je le trouve plein de grâce. Ignace, Ignace, je m'en crois pas, mais il me place. Ignace, c'est un nom charmant. Moi je le trouve plein de grâce, Ignace, Ignace, je m'en crois pas, mais il me place, Ignace, c'est un nom charmant, elle.
Tout l'art de Deezer de Fernandel dans cette chanson signée Mans et Dumas, ses deux partenaires habituels ici avec l'orchestre de Pierre Chagnon en l'année 1936. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Annie Comier. Aujourd'hui à la technique Frédéric Kiffer, réalisation Christine Amado. Et ne manquez surtout pas le rendez-vous la semaine prochaine puisque j'aurai la joie d'accueillir Serge Lama. D'ici là, bon week-end à tous sur France Musique où vous avez rendez-vous avec Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.